France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main Vous Fasse. Vous avez peut-être l'impression que votre cerveau ressemble à une cocotte minute prête à exploser. Entre les mille et une tâches du quotidien à accomplir, les ruminations, les stimulations numériques incessantes, les pensées intrusives qui s'invitent sans cesse dans votre tête, les demandes harassantes des uns et des autres, les injonctions sociales, familiales, amicales, bref, vous vous sentez saturé, mentalement épuisé et vous ne savez pas comment vous y prendre pour diminuer cette pression mentale quasi permanente. Ce matin, nos invités Philippe Haïm et Alicia Sandon vont vous aider à trouver des solutions pour échapper à cette saturation mentale. N'hésitez pas à témoigner et à poser vos questions au 01 45 24 7000, sans oublier l'appli Radio France, où vous pouvez laisser messages et notes vocales. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Ali Rebéi.
Ce qu'on a à dire est tout simple, hein. On va dire franchement ce qu'on a sur le cœur. Ça peut se résumer en une seule expression, en un seul mot, assez suffit, terminé.
On est à bout.
On est à bout. Hein.
On est à bout, à bout, à bout, à bout, à bout.
On est à bout parce qu'on a trop tiré sur la ficelle et qu'à un moment donné, quand on tire trop, la ficelle casse.
Voilà.
Tout simplement. Hein.
Alors on regarde tout à l'intérieur et puis un jour,
il y a un moment donné,
ça explose.
Ça explose. Hein. Et c'est l'explosion.
C'est l'explosion
simplement. On a été très gentil, extrêmement gentil, mais bien sûr, mais au contraire, mais pour faire plaisir, qu'est-ce qu'on n'aurait pas fait ? Et on restait, et on était là, et tout.
Et ça pouvait durer des années comme ça.
Alors moi, je prends les ciseaux, et j'ai...
Extrait des déchets avec François Morel et Éric Saladin. Bonjour docteur Philippe Haïm.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre et psychothérapeute. Bonjour Alicia Sandon. Bonjour Alicia Sandon.
Bonjour.
Vous êtes psychologue et psychothérapeute et vous avez écrit ensemble chez Marabout « Je désature », sous-titré « Surcharge mentale, hyperstimulation, stress, batterie à plat, la méthode pour retrouver vos facultés et votre équilibre ». On est nombreux à être à bout, à saturer, hein, Philippe Haïm, comme dans cet extrait des chiens.
Oui, on est nombreux de plus en plus. Nous, c'est ce qu'on a remarqué, l'idée d'écrire sur le sujet est partie de nos patients, de plus en plus de consultations avec des personnes qui emploient ces expressions « je sature, j'en peux plus, je suis à bout, je fais un burn-out, etc. » De nos formations aussi, parce qu'on passe beaucoup de temps à faire des formations pour les soignants, pour les aider à mieux soigner leurs patients. Et pareil, qu'est-ce qu'on peut faire pour tous ces patients qui saturent, n'en peuvent plus
Comment définir la saturation mentale ? On connaît bien aujourd'hui la charge mentale hein, qui touche essentiellement les femmes. C'est quoi exactement la saturation mentale ?
En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs portes d'entrée qui amenaient à la même chose. Alors oui, notamment les militantes féministes ont vraiment mis en lumière ce côté charge mentale qui pèse sur les femmes, toutes ces tâches ménagères parfois invisibles qui pèsent sur le mental. On a beaucoup parlé du burn-out sur le plan professionnel. On parle de surcharge mentale, on parle de beaucoup, beaucoup de choses. Et finalement, nous, ce qui nous intéressait, c'est que ça ramenait, tout cela ramenait au même mécanisme au niveau cérébral, qui est la saturation de ce qu'on appelle la mémoire de travail. Quand cette mémoire de travail est saturée, on a cette impression comme ça de débordement, quelle que soit la porte d'entrée. Et les gens arrivaient en nous disant « je sature », en nous disant « je suis débordé par les demandes des autres, je ne sais pas dire non », en disant « j'ai pas confiance en moi, j'arrive pas à me mettre en action », et que ce soit familial, professionnel ou autre, mais on arrive toujours au même mécanisme, qui est la saturation de la mémoire de travail. Donc c'est pour ça qu'on est parti plutôt sur ce vocabulaire-là.
Et on reviendra tout à l'heure sur cette fameuse mémoire de travail. Alicia Sandon, la saturation mentale, c'est cette impression d'être pris dans une course folle et de ne pas savoir comment l'arrêter.
Oui, tout à fait. Ça illustrait très très bien l'audio que vous avez mis tout à l'heure. En fait, c'est cette sensation-là d'avoir la tête qui turbine sans cesse, de chercher ce bouton stop en fait, mais de pas trouver comment arrêter le flux des pensées. Parce que de un, ça peut pas s'arrêter. On peut pas arrêter de penser, c'est pas possible. Donc en fait, c'est une des problématiques, c'est qu'on court après un idéal qui n'est pas possible. Et puis surtout, on fait des mauvaises pauses qui sont contre-productives et ça entretient cette notion de courir sans cesse, en fait.
Et puis, nous avons tous l'impression d'être hyper stimulés en permanence, docteur Philippe Haïm. Info en continu, réseaux sociaux, notifications, connexion permanente.
Alors, il y a les deux qui jouent. Il y a effectivement ce phénomène dont on parle beaucoup, hein, l'hyperstimulation, l'infobésité, comme certains disent, avec les notifications, etc. Donc oui, la denrée la plus précieuse, c'est devenue notre attention. Donc elle est extrêmement, extrêmement stimulée. Donc fatalement, on finit par saturer. Et c'est vrai que la problématique, c'est que les solutions qu'on nous propose sont totalement paradoxales et impossibles à mettre en place. On nous dit de tout lâcher ou alors d'être très rentable. On nous dit d'être très dans les valeurs de l'entreprise ou d'en avoir rien à faire du regard des autres. On est dans ces paradoxes dont on se sort pas, en fait.
Et dans votre livre, vous explorez quatre types de saturation. La saturation cognitive, la saturation relationnelle, la saturation des attentes impossibles et la saturation sociale.
Oui, on s'est rendu compte que les personnes qui arrivaient avec ce discours avaient souvent les mêmes phrases qui les animaient et qu'il y avait plusieurs types de saturation qui étaient intriquées les unes dans les autres. Très souvent, les personnes qui disaient « je sature complètement, j'en peux plus » avaient souvent aussi dans leur discours un « je ne sais pas dire non, j'arrive pas à dire non aux autres, je me sacrifie, mais qui fait quelque chose pour moi ?» avaient souvent aussi dans leur discours « j'ai pas confiance en moi » et avaient aussi ce côté « je suis pas à la hauteur de ce qu'on attend de moi, je me pose des questions sur le sens de ce que je fais ». Tout ça était très souvent intriqué, imbriqué les uns dans les autres. Donc c'est pour ça qu'on parle de quatre saturations en stress.
Alicia Sandon, nous vivons toutes et tous dans un tourbillon de stimulation et d'exigences contradictoires et nous sautons sans arrêt d'une tâche à une autre avec à la clé un épuisement psychique et physique.
Oui, tout à fait. En fait, souvent, on ressent cet épuisement physique, en fait, au bout d'un certain temps, quand on tire trop sur la corde, comme on le disait tout à l'heure. Mais finalement, cette fatigue physique, c'est une conséquence de notre fatigue mentale pour la plupart des personnes. Mis à part si on vient de courir un marathon où là, on a une réelle fatigue physique pure. Sinon, c'est vraiment plus le fait qu'on ait mis notre organisme à rude épreuve, en fait, en surstimulant notre capacité attentionnelle et du coup notre mémoire de travail.
Philippe Haïm, cette saturation de l'attention, de la mémoire, cette saturation face aux injonctions contradictoires provoque de la souffrance, surtout quand on est perfectionniste.
Oui, alors, mais le perfectionnisme, c'est aussi cette espèce d'exigence qu'on nous impose. Le perfectionnisme ne vient pas toujours de nous. Le perfectionnisme est parfois une réponse à ce décalage qu'on ressent entre nos attentes ou les attentes des autres. On attend beaucoup et on ne se sent pas beaucoup de capacité. On a l'impression qu'on n'en a plus assez. Les gens qui saturent nous disent « Normalement, je devrais y arriver. D'habitude, j'y arrive. Et là, j'y arrive plus. » Et donc, je suis épuisé. Et c'est très important, là, ce que disait Alicia, la fatigue physique que l'on ressent est une conséquence de notre fatigue psychique. Il faut trouver des pauses du cerveau et pas des pauses uniquement physiques si on veut arriver à remettre le pied à l'étrier. Et c'est la vraie erreur qu'on fait d'ailleurs. On évoquait en passant l'idée des fausses pauses.
Vous l'évoquez dans votre livre, c'est très intéressant. Oui. Vous nous expliquerez tout à l'heure comment faire une véritable pause cérébrale. Parmi les conséquences de cette saturation mentale, il y a le burn-out professionnel, parental, une sorte de burn-out relationnel, un déficit de confiance en soi, une incapacité à dire non, non notamment aux injonctions sociales, aux sollicitations de l'entourage, avec également à la clé une baisse de l'estime de soi. Et nous sommes nombreux à être en quête d'un bouton stop, stop, pour désaturer. Le problème, docteur Philippe Haïm, c'est que ce bouton magique n'existe pas.
Et non, il n'y a pas de bouton stop. On ne peut pas s'arrêter de penser. On peut le faire différemment. On peut réorganiser nos pensées. On peut trouver du temps pour que les fonctions cérébrales qui désaturent notre mémoire de travail aient leur place. Mais on n'arrêtera pas de penser. Mais le problème, c'est pas de penser. Le problème, c'est de ne pas respecter le rythme de nos pensées. Le problème, c'est de ne pas arriver à faire justement des pauses qui soient mentales et pas seulement physiques. Le problème, c'est pas de penser. Si on finit par penser que le problème, c'est de penser, alors on essaye d'arrêter de penser et on fait n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on va nous dire on va prendre des vacances ou on va aller au spa, on va faire quelque chose, on va totalement déconnecter. Et on entend là aussi ce discours très souvent, j'ai pris des vacances, j'ai déconnecté et j'ai l'impression qu'au bout de 2 jours de travail, j'ai perdu tout l'effet de mes vacances. Ça, c'est typiquement la personne qui ne va pas prendre soin de sa mémoire de travail et de son cerveau au quotidien, mais seulement une fois par an ou une fois tous les 3 mois. Et c'est une mauvaise manière de désaturer.
Alicia Sandon ?
Oui. La problématique, c'est qu'on répond à des attentes quotidienne, en fait, à chaque heure, à chaque minute, finalement. Et c'est ce qui nous plonge derrière dans cette saturation, dans le fait de penser, mais de penser dans tous les sens, en fait, de façon désorganisée. Et c'est ça qui ne va pas. Quand on essaie de répondre à ces injonctions qui sont paradoxales, par exemple, être un bon parent toujours disponible, travailler dur tout le temps, ne pas s'arrêter, avoir un métier utile, une famille équilibrée, on essaie de répondre à trop de choses et donc du coup on est sans cesse en train de réfléchir à tout ça en fait. Et c'est cette explosion en fait de réflexion sur toutes ces injonctions dans lesquelles on baigne qui ne va pas. Donc c'est pas penser, c'est pas réfléchir qui ne va pas, mais c'est le faire de manière
avec un débordement,
dans tous les sens en fait. Voilà, dans un débordement où plus rien n'a de sens en fait. Et donc du coup, on remet tout en question. Et c'est là où on peut plus mettre de limites, on peut plus s'écouter, on peut plus poser de non en fait, parce que on a plus cette capacité de prendre le recul sur les choses en fait.
Bonjour Marie-Laure Sonnenschein.
Bonjour Ali.
Rédactrice en chef à Femmes Actuelles. Quel est le menu de vos questions toujours pertinentes?
Une détox numérique est-elle un leurre ou un préalable? Et comment ne pas se sentir coupable de dire non?
Bonjour Éric Libiot.
Bonjour Ali.
Rédacteur en chef d'Écran Total. Quel est le menu de votre chronique Petite mythologie des objets du quotidien?
Alors ce ne sera pas la ficelle dont parlaient les déchiens, mais la pile qui parfois est à plat, un peu comme nous.
Grand bien vous fasse.
Mais je peux respirer là? C'est quoi de harceler les gens comme ça?
Tu te calmes s'il te plaît?
Non, toi tu te calmes, tu prends un somnifère, tu vas au lit.
Sur France Inter.
Et ce matin, comment désaturer, comment diminuer sa pression mentale avec le docteur Philippe Haïm et Alicia Sondon qui publient ensemble « Je désature ».
L'être humain est parfaitement capable de réaliser plusieurs choses en même temps. Mais tout dépend du type d'activité et des conditions. Par exemple, télétravailler tout en gardant ses enfants, le lot de nombreux parents pendant le confinement, sont deux activités difficilement conciliables. Le multitâche, ou l'art de faire plusieurs choses à la fois, est désormais le quotidien de beaucoup d'entre nous. Mais y gagne-t-on vraiment ?
Notre cerveau n'est pas doué pour traiter plusieurs tâches à la fois.
Qu'est-ce que le multitâche induit chez nous ?
Son pouvoir magique réside dans l'illusion qu'on va pouvoir abattre énormément tout en étant hyper efficace.
Un sentiment entretenu notamment par les technologies numériques. Irrésistibles tout autant que tyranniques, elles ne nous laissent aucun répit.
On est dans cette logique d'alerte qui fait que votre propre mobilisation de votre attention faiblit, quoi, parce que vous êtes disponible pour toute sollicitation.
Être disponible en permanence, tout en s'acquittant de tâches multiples et variées, semble être devenu la norme.
Extrait du documentaire « Cerveau multitâche, une illusion » diffusé en 2021 sur Arte. Docteur Philippe Haïm, Alicia Sondon, l'une des raisons de notre saturation mentale, c'est cette illusion du multitâche, Alicia Sondon.
Oui, alors oui, en effet, c'est une illusion. On n'est pas capable d'être multitâche, en fait. Même les femmes, hein, je suis désolée de pousser des portes, mais en fait, on a une capacité d'avoir une attention partagée, divisée, mais on ne peut pas la démultiplier, en fait. Elle reste, on a la même quantité d'attention qui va se partager. Donc, on a une illusion, comme il était dit dans votre documentaire juste avant, d'être multitâche, mais on passe très rapidement d'une tâche à l'autre, en fait, en surstimulant notre capacité attentionnelle, ce qui fait qu'on est moins opérationnel, on a un rendement qui finalement est moindre, et surtout, on épuise nos capacités psychiques.
Vous pouvez nous donner des exemples, Alicia Sondon, de cette illusion du multitâche?
C'est notamment le fait de traiter plusieurs choses à la fois. Alors, si on part sur la notion du travail, on peut être sur un document en train de travailler et puis répondre à des mails qui apparaissent, des notifications qui apparaissent sur le téléphone également, en fait. Il faut savoir que quand on est plongé dans un document, par exemple, qu'on doit lire ou un mail qu'on doit rédiger, quand notre vision est attirée par une notification sur le téléphone, même si on n'ouvre pas la notification, pour retourner pleinement dans notre attention de concentration de ce qu'on était en train de faire, on peut avoir besoin d'entre 5 à 15 minutes, finalement, il y a des études qui l'ont montré, pour être pleinement dans notre tâche. Alors, c'est vrai que les notifications tombent régulièrement sur le téléphone, ça vous montre justement à quel point notre attention, à chaque fois, est partagée et divisée. Ne serait-ce que quand on lit un document sur une page où il y a même des publicités finalement qui apparaissent dans les coins de la page, on est sans cesse en train de traiter beaucoup trop d'informations de façon consécutive, en fait, encore une fois, pas en même temps.
Et d'ailleurs, toutes les études qui ont été faites sur le multitâche montrent que quand on essaye d'intéresser un humain à plusieurs tâches en même temps, systématiquement, soit il en privilégie une des deux, soit il ralentit globalement sur les deux tâches. Voilà, il n'y a pas d'être humain particulièrement doué pour ça, on ne peut pas le faire. Alors, il y a des gens qui pensent très vite, il y a des gens très intelligents, donc ils passent très vite d'une tâche à l'autre, et ils ont l'impression d'en faire plusieurs à la fois, mais ça n'est pas le cas, ce n'est pas possible.
Pourquoi ça nous épuise cette illusion du multitâche ?
Alors, on revient à la notion de départ, ça nous épuise parce que ça remplit notre mémoire de travail, en fait. Vraiment, le cœur de l'idée est là, la mémoire de travail, c'est-à-dire cette partie de notre cerveau qui traite les informations en cours.
C'est un peu la mémoire vive de l'ordinateur, pour le dire vite,
c'est ça. Et ce qui est important, c'est qu'elle n'est pas extensible. Donc c'est la mémoire vive au sens où elle amène à ma conscience les informations dont j'ai besoin. Quand nous discutons, j'ai à la fois des souvenirs qui me viennent, des notions qui me viennent, de la compréhension de vos mots qui me viennent, et rassembler toutes ces informations-là pour que je puisse vous répondre, c'est ma mémoire de travail qui le fait. Et c'est, on pourrait dire, c'est ce qu'on dit dans le livre, comme une boîte dans laquelle on empile des objets, cette boîte n'est pas extensible. Si elle est sans cesse pleine ou à moitié pleine, il y a un nouvel objet qui se présente, on se dit « Oh, c'est un objet qui est gérable, il devrait rentrer dans ma boîte », sauf qu'elle n'est pas vide du tout, il ne rentre pas dans ma boîte, et je me dis « Mais je suis nul, c'est pas possible, d'habitude j'y arrive ».
Et la mémoire de travail est essentielle car elle est en relation permanente avec de nombreuses fonctions cognitives.
Avec à peu près toutes, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'à la fois des fonctions sensorielles, ce que je vois, ce que j'écoute, à la fois mnésique, la mémoire, à la fois de compréhension cognitive, etc.
Vous l'avez dit, hein, le problème avec cette mémoire de travail, c'est qu'elle détient une capacité limitée de traitement des informations. C'est un peu comme s'il y avait trop d'applications ouvertes en même temps sur son téléphone.
Oui, on pourrait pousser la métaphore jusque-là. Quand vous avez trop d'applications ouvertes, soit il y en a une qui est privilégiée, soit elle rame toutes.
Et que se passe-t-il concrètement quand cette mémoire de travail est saturée ?
Eh bien, l'objet qui ne peut plus rentrer dans la boîte, il tombe à côté, il rebondit, il rentre mal, on le pousse, et il y a une baisse de l'estime de soi en conséquence, puisqu'on se dit « je devrais pouvoir le faire, je ne peux pas le faire », et en fait, c'est toujours plein. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On pousse encore, on essaye de pousser les murs de notre mémoire de travail, on se met en sur-régime, pour pousser la métaphore, comme si vous sursollicitez le microprocesseur d'un ordinateur ou d'un téléphone, on surchauffe, et on est complètement dépassé. Et on arrive avec ces gens qui disent « mais finalement, j'ai tellement donné au travail, et je rentre chez moi, et pour les gens que j'aime et avec qui j'ai envie d'être bien, je suis pas bien, je deviens irritable, alors que c'est là où je voudrais me poser. » Et donc, en fait, plus rien ne va, on ne peut plus hiérarchiser les tâches. Enfin, on est complètement débordé.
Question de Marie-Laure Sonnenschein, de Femme Actuelle.
Oui, Philippe Haïm, sur les tâches, il y a quand même une sorte de paradoxe. Finalement, elles sont extrêmement nombreuses, on est totalement assailli de tâches diverses. Et pourtant, la technologie, la modernité ont énormément simplifié certaines d'entre elles, que ce soit les mobilités, la prise en charge de la maison. Même au travail, on a des outils, on aurait pu passer des heures à rédiger un rapport à la main. Aujourd'hui, ça se fait en deux clics. On a gagné du temps, pourtant.
On devrait, en toute théorie, c'est vrai. On a plus de congés que nos grands-parents. On a des outils qui coupent nos légumes, on a des transports qui vont beaucoup plus vite, et même pour communiquer les uns avec les autres, on ne prend plus le temps d'écrire un mail, on laisse un vocal sur WhatsApp, et en 4 secondes, il est à l'autre bout du monde, on envoie une photo de ce qu'on est en train de faire. Oui, on a gagné du temps, mais encore une fois, on a gagné du temps sur des tâches physiques. C'est comme l'histoire des pauses dont on reparlera. On a gagné du temps physique, et donc on devrait avoir du temps. Par contre, on a plus de choses à faire sur le plan de l'attention et des tâches mentales. Ça, on en a beaucoup plus. Et ça, c'est pas extensible. Tant qu'on a suffisamment d'énergie, et peut-être qu'un de ces quatre, on en aura moins, comme dirait Jean Covici, mais tant qu'on a de l'énergie, on fait tourner des machines qui font du travail à notre place. Mais ce travail mental d'attention, pas juste d'intelligence, pas juste de produire un rapport avec ChatGPT, mais cette attention qu'on doit porter à différentes choses, elle est de plus en plus sollicitée, et ça ne va pas en diminuant.
Et que répondez-vous à celles et ceux qui considèrent que leur cerveau va à 100 à l'heure quand ils font 1000 choses à la fois ? Éric Libio nous disait cela hors antenne. En réalité, on s'épuise.
Oui, on s'épuise en ayant l'impression d'aller à 100 à l'heure si on ne désature pas notre mémoire de travail. On essaye, encore une fois, d'imaginer une boîte pas extensible où on essaye de pousser les murs ou un ordinateur qui surchauffe. Si on ne prend pas le temps, de vider un peu les choses.
Éric Libiot.
Non, non, je veux pas. C'est à l'heure. Je suis jamais d'excès de vitesse, moi. Non, mais moi, je fais un travail un peu particulier parce que le travail consiste à regarder des films et à lire des livres. Enfin, en gros, si je résume un peu comme ça. Donc, c'est parfois, pour d'autres, un plaisir aussi. Donc, c'est un peu particulier. Mais je sais que mon cerveau est tout le temps attiré par... je pense aux films, je pense aux livres, je pense aux bandes dessinées que je lis, je pense aux papiers que je vais écrire et tout ça. Donc, et je me rends compte que quand je coupe vraiment, quand j'y pense plus, ça va pas trop. Et en fait, je vais bien quand j'y pense régulièrement, mais à des intensités plus ou moins grandes. Je sais pas si...
Mais je crois que c'est ça l'enjeu, et on en parlait un petit peu hors antenne. C'est pour moi ce que je trouve difficile, et Alicia, vous en parlerez très bien aussi avec les patients qu'elle reçoit, mais c'est quand on va dans une très forte intensité et qu'après, on lâche tout, parce qu'on est épuisé, on recharge les batteries pour mieux les vider. Mais il y a des gens qui ont besoin de cette activité intellectuelle, et notamment les gens qui ont un travail créatif, où ils doivent écrire, où ils doivent analyser, etc. Mais ceux qui y arrivent bien, et qui ont une passion pour ça, et qui peuvent le faire même le week-end, si on analysait concrètement ce qu'ils font, on va découvrir qu'ils le font à des intensités différentes, et que des fois, ils font des petites pauses, courtes, mais qui redescendent un peu la pression mentale, et ils peuvent repartir pour l'heure d'après. C'est pas du tout un problème de beaucoup travailler, d'être passionné par ce qu'on fait, parce que pour nous, ce qu'on essaie d'expliquer dans le livre, c'est que la désaturation, elle a plus d'intérêt si elle se fait un petit peu plusieurs fois au quotidien que si elle se fait jamais, 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 et d'un seul coup très longuement en vacances. Alors oui, il faut prendre des vacances, mais c'est pas la solution à la saturation du quotidien.
Alicia Sandon.
Oui, je voulais juste intervenir en fait par rapport à ce qui a été dit, par rapport à ce cerveau qui est attiré en fait sur le fait de continuer à tourner. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi une sorte d'habituation, de dépendance qui va se créer, et le fait d'essayer de fonctionner différemment, c'est pas familier. Et donc, du coup, ça peut en sécuriser, ça peut engendrer une sensation un peu désagréable parce qu'on en a perdu l'habitude, en fait. Et ce qui se passe quand on est hyper stimulé, qu'on réfléchit sans cesse, en fait, on va développer une hyper-vigilance. Et avec tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire les hormones, la production des hormones de stress et autres, donc c'est comme si on était en danger. Et finalement, essayer de ralentir, d'arrêter justement d'être multitâche ou de penser à trop de choses à la fois, c'est... dans un premier temps, encore plus stressant finalement quand on ne le fait pas de manière appropriée. Donc c'est ce qui fait un peu un cercle vicieux en fait, vous voyez.
Docteur Philippe Haïm, Alicia Sandon, quelle est votre approche globale pour nous aider à désaturer ?
L'approche globale, c'est d'essayer de comprendre le fonctionnement. Donc dans le livre et dans les formations, dans les vidéos, on recourt beaucoup à des métaphores pour essayer d'expliquer de façon imagée pour que ça nous reste dans la tête et qu'on comprenne un petit peu comment ça fonctionne, qu'on le voit venir, qu'on sache le reconnaître. Et l'autre aspect, c'est on revient beaucoup sur la notion de faire des nuances. On est vraiment dans l'idée de faire des nuances parce qu'à chaque saturation, il y a une tentation d'aller dans un extrême ou l'autre. Soit d'être hyper rentable, soit de tout relâcher et de rien faire, soit de dire oui à tout le monde et de se sacrifier pour les autres et d'être sacrificiel, soit d'écouter les commentaires qui nous disent « dis non à tous, sois égoïste », soit de se dire « tu peux tout faire si tu le veux vraiment, c'est une question de volonté », soit de dire « n'aie aucune attente », soit une sorte de moine bouddhiste qui ne désire rien, soit je suis trop conforme au regard des autres, soit il faut que t'en aies rien à faire du regard des autres. Nous, ce qu'on essaie de dire, c'est que ces tentations des extrêmes sont très mauvaises pour nous, il n'y en a aucune qui est satisfaisante. On essaie de mettre un petit peu de nuance.
Alors, vous évoquez dans votre livre, on l'a dit, la saturation cognitive, la saturation relationnelle, la saturation des attentes impossibles, la saturation sociale. J'aimerais qu'on commence avec la saturation cognitive, quand on se sent au bout du rouleau. Expliquez-nous en quoi elle consiste, cette saturation cognitive que nous connaissons tous ?
Alors, la saturation cognitive, c'est justement ce surremplissage de ces fonctions non extensibles et qui va avoir une conséquence sur les fonctions suivantes. Et donc, si j'ai cette mémoire qui est trop remplie, ça veut dire que j'ai tout le temps un problème à traiter. Et donc, c'est un petit peu ce que nous introduisait Alicia, c'est-à-dire si j'ai tout le temps un problème à traiter, je me dis, je ne peux pas me relâcher. Il faut que je traite ce problème. Et donc, qu'est-ce que je vais faire pour continuer à traiter ce problème ? Je vais négliger, en fait, ces rythmes naturels de décrochage qu'on peut avoir. Et comment je vais faire ? Il faut que je me stimule. Alors, par exemple, je sens que je décroche, je sens que j'ai besoin d'une pause, et je vais me dire, hé oh, reprends-toi, concentre-toi, il faut que tu termines ça. Alors, je peux le faire avec des expédients extérieurs, du café, de la nicotine ou autre. Mais je peux le faire aussi avec des molécules chimiques que je vais sécréter moi-même. Quel est le meilleur moyen de ne pas s'endormir et de ne pas se relâcher ? Eh ben, c'est le stress. Mmh. Et alors, le stress est une fonction très positive quand elle est à court terme. Même les animaux ont du stress quand ils ont un prédateur. Elle est mauvaise à long terme. Mais le meilleur moyen, c'est de balancer des hormones de stress en permanence. Comme ça, je reste réveillé et actif.
Alors, comment vraiment décrocher ? À quoi ressemble une vraie pause par rapport à une fausse pause ? Expliquez-nous, docteur Haïm.
Alors, une fausse pause, on pourrait dire, c'est cette illusion qu'on a qu'on va décrocher sur le plan physique. Et c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire je vais faire autre chose. Le problème, c'est qu'on fait des pauses qui sont encore cognitives. Et même quand elles ont l'air détendantes. Mais il est bien évident que si je fais une pause pour aller scroller mes réseaux sociaux, c'est pas une vraie pause, puisque c'est très cognitif. Même si je parle de toute autre chose. Mais je réfléchis, j'ai sans cesse des informations cognitives. Si je fais une pause à la machine à café, mais en parlant avec mes collègues du boulot, ben, ça reste cognitif, même si je parle de toute autre chose, même si je parle de... voilà. Même lire, c'est très bien de lire, il faut lire, mais même lire est une activité cognitive. Et en fait, on fait rarement ou trop peu de pauses qui soient absolument pas cognitives, qui soient uniquement corporelles et physiques. Comme le dit Alicia, c'est souvent passé de « je réfléchis » à « je ressens ».
Alicia Sandon, pendant ces vraies pauses, l'information ne doit pas venir des pensées et des réflexions, mais des sensations, du ressenti, c'est ça ? La clé, c'est de passer de réfléchi à ressent.
Voilà, c'est comme ça que je l'image à chaque fois, en fait, c'est de pouvoir rebasculer un tout petit peu plus dans les modalités implicite de notre traitement d'information, en fait. Alors, c'est peut-être un petit peu complexe, mais notre mémoire, elle a une façon explicite de fonctionner, avec tout ce qu'on traite comme information dans les discussions, dans les lectures, etc. Et elle a une manière plus implicite de fonctionner, notamment quand on est en train de conduire. Vous savez, on parle de ce côté procédural, les choses qu'on fait en pilote automatique auxquelles on ne réfléchit pas. En fait, c'est vraiment très comportemental. C'est le corps qui va agir sans forcément qu'on y mette une réflexion active. Et du coup, on a également dans cette mémoire implicite tout ce qui est sensation, traitement justement des sensations. Vous ne faites pas forcément un effort cognitif. Quand vous vous brûlez, par exemple, vous retirez la main et ensuite vous réfléchissez que vous vous êtes brûlé, mais vous avez traité l'information sensorielle de façon implicite, en fait. Donc, les vraies pauses, c'est réussir à rebasculer sur cette modalité implicite, c'est-à-dire de fonctionner. C'est pour ça qu'on peut faire un décrochage cognitif en marchant, en passant l'aspirateur, en faisant quelque chose. On n'est pas obligé d'être assis ou couché.
En se brossant les dents, en se lavant les mains.
On peut agir, en fait. Mais avec cette modalité sensorielle, on fait ce qu'on appelle un entonnoir sensoriel. On se fixe sur une sensation, en fait, qu'elle soit auditive, olfactive, kinesthésique, le toucher, en fait. Et pour amener progressivement à moins de stimulation au niveau de notre mémoire de travail, en fait.
Ça ressemble beaucoup à la pleine conscience, Philippe Haïm.
Alors, ça ressemble à la pleine conscience, pourquoi pas ? Ça peut ressembler à de l'hypnose, pourquoi pas ? Nous, on vient un peu du monde de l'hypnose aussi. La différence, c'est qu'encore une fois, on essaie de mettre un petit peu de nuance, dans le sens où souvent, les gens sont très exigeants. Hein. C'est-à-dire qu'ils disent, j'en ai plein la tête, et je vais faire 45 minutes de méditation par jour. Bon, si vous êtes vraiment saturé, trois quarts d'heure de méditation, c'est juste pas possible. En fait, vous n'y arriverait pas. Il y a même des gens qui nous disent même lire votre livre, ça va être difficile tant je suis saturé. C'est pour ça qu'on fait une lecture par chapitre avec 15 jours de pause entre chaque chapitre pour y aller vraiment doucement parce qu'on peut être vraiment saturé. Nous, ce qu'on propose, c'est de faire des pauses de 2 minutes, 30 secondes, 3 minutes, mais vraiment sensoriel. Prenez un café à la pause, mais mettez vos mains autour de la tasse et sentez la chaleur de la tasse et ne faites rien d'autre pendant 3 minutes. Et vous allez voir que c'est pas si simple. Si vous faites ça, vous faites une vraie pause.
Maman, tu sais pas ce qui m'arrive. Toi, Marie m'a quitté, je suis complètement déprimé. Je comprends absolument pas ce qui s'est passé. Et en plus, j'ai perdu mon boulot le même jour, tu te rends compte ?
Victor, ta mère a un amant.
Hein ?
Et elle a décidé de me quitter pour partir avec lui.
Hein ?
À 50 ans, elle se barre avec un mec de 10 ans plus jeune qu'elle.
Voilà.
Et papa reste tout seul.
Maman, t'es complètement dingue ou quoi ? Et papa et moi ? J'ai des problèmes, moi.
Tu arrêtes. Tu te tais et tu m'écoutes, d'accord ? Tes problèmes de boulot, tes problèmes avec ta femme, tes problèmes de fric, tes problèmes en général et en particulier, moi, ta mère, je m'en fous comme de l'an 40. Tu m'entends, je m'en fous. Mais alors, je m'en fous. Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Mais merde, c'est pas croyable. Ma propre mère se fout de mes problèmes.
Je te dirai encore mieux. Non seulement je me fous de tes problèmes, mais je me fous également des problèmes de ta sœur.
Ma parole, je rêve.
Non, non, mon lapin, tu ne rêves pas. Pendant 30 ans, je vous ai torché, nourri, couché, levé, consolé, tous les trois. Je me suis fait des monceaux de billes, je n'ai vécu que pour vous, qu'à travers vous. J'ai écouté toutes vos histoires, vos problèmes et vos chagrins, sans jamais vous emmerder avec les miens. Alors maintenant, Je prends ma retraite.
Tu vas détruire toute une famille? Qu'est-ce que je dis? Deux familles pour une vulgaire histoire de cul?
Ah d'accord. Alors quand il s'agit de ton cul, c'est de l'amour, mais quand il s'agit du mien, c'est vulgaire, c'est ça?
Oui, c'est vulgaire, c'est dégueulasse.
Enfin maman, c'est une passade, il a 10 ans de moins que toi, ça pourra pas durer.
Mon petit chéri, ça durera ce que ça durera, ça m'est bien égal. De toute façon, j'ai jamais vu que la durée fasse tellement de bien aux histoires d'amour.
C'est pas une histoire d'amour, tout ce qui t'intéresse, c'est de t'envoyer en l'air.
Mais bien sûr que ça m'intéresse de m'envoyer en l'air, ça t'intéresse pas, toi? Et même si c'était qu'une belle histoire de cul, j'ai pas le droit d'en avoir une belle histoire de cul, moi? Mais ils sont insensés tous les deux, comment ils croient qu'ils sont venus sur cette terre? Vous croyez que je vous ai fait avec mes oreilles? Je vous ai fait avec mon cul, mes petits poussins.
La célèbre tirade de Maria Pacom dans La crise de Colin Serrault. J'aimerais que vous nous aidiez à faire face à la saturation relationnelle. On sent bien que le personnage interprété par Maria Pacom est relationnellement saturé et elle dit non.
Ah oui, alors là, elle dit non fortement. Et justement, alors c'est excellent, excellemment joué et vraiment très drôle et très bien écrit. Et on voit bien, c'est satisfaisant, comme on dit de nos jours. C'est satisfaisant parce qu'on a l'impression qu'on pourrait faire ça, qu'on pourrait aller dans l'extrême inverse. J'ai dit oui, je me suis sacrifié, je fais tout pour les autres et puis personne ne fait rien pour moi. Et d'un seul coup, je vais dire, ah, je les envoie balader. Ah, j'envoie balader tout le monde. Je dis enfin non. Et c'est très tentant.
La saturation relationnelle peut survenir quand on ne sait plus dire non.
On ne sait plus dire non, on n'y arrive pas, on n'a pas de recul, on dit oui, on est saturé par les demandes des autres. Alors, je mets le bémol, je vais faire un peu le rabat-joie sur ce qu'on vient d'entendre. C'est tentant, mais c'est pas toujours vraiment possible. Déjà parce que si on se sacrifie pour les autres, si on donne beaucoup, c'est parce qu'on est quelqu'un de plutôt empathique, de plutôt sensible, de plutôt attentif aux autres. Et ce conseil qu'on pourrait entendre qui est « pense un peu à toi, pense un peu à ta gueule, tu t'en fiches des autres, dis non, envoie balader tout le monde », ça paraît très tentant et les gens ont envie de le suivre et ils n'y arrivent pas parce qu'en fait, c'est inacceptable, en fait, c'est inaudible, on n'a pas ces valeurs-là, on a envie de donner aux autres, on nous dit « sois égoïste ». Et il y a une partie de notre cerveau qui dit « non mais je ne peux pas être égoïste ». Donc encore une fois, nuance.
Et il est très important d'identifier ces différents cercles relationnels. Il y a le premier cercle, c'est des amis très proches, c'est la famille, Philippe Haïm. Le deuxième cercle, ce sont des amis qui vous connaissent très bien, mais pas plus que le premier. Et il y a le troisième cercle, où l'on trouve les connaissances, les personnes dont on n'est pas forcément proche, même si on fait l'erreur de croire qu'elles le sont. Et c'est souvent dans ce troisième cercle qu'on n'arrive pas à dire non. Et ça peut entraîner donc une saturation relationnelle. C'est dans ce troisième cercle qu'il va falloir être vigilant face aux sollicitations multiples et variées.
Il faut l'être un petit peu partout, mais je dirais que... en tout cas, moi, ma manière de le dire, c'est qu'on ne partage pas les mêmes choses avec tout le monde. Les personnes du troisième cercle, c'est-à-dire les relations qu'on a, c'est des gens avec qui on partage un objectif. On a quelque chose à faire ensemble, comme un collègue de travail ou quelque chose comme ça. On a quelque chose à faire ensemble. On ne peut pas attendre la même chose que les gens avec qui on partage des valeurs ou les gens avec qui on partage un quotidien. On a quelque chose à faire ensemble. Et donc, on ne peut pas en attendre la même chose et répondre à toutes les demandes de façon indifférenciée, répondre à toutes les demandes de façon équivalente, quelle que soit la distance relationnelle qu'on a avec les gens, c'est ça qui nous épuise et nous fait perdre nos valeurs et tout inverser. Mmh. Finalement, je donne beaucoup à des gens avec qui je partage un objectif et quand je rentre chez moi, je ne peux plus donner pour les gens qui comptent.
Et puis, il y a des personnes en dehors des cercles qui nous prennent plus qu'elles ne nous donnent, Alicia Sandon.
Oui, alors il y a des personnes qui sont à l'extérieur des cercles. C'est des relations qui... Ce n'est pas vraiment des relations, justement. On qualifierait ça plutôt de lien, en fait. Parce que relation, ça nourrit un tout petit peu quand même quelque chose. Tandis que là, on donne, mais on n'a rien en retour, en fait. Alors, il y a des personnes qui se situent là et qui ont un comportement un petit peu toxique, on va dire. Puis, il y a des personnes qui se situent là, mais parce qu'en fait, c'est normal. Moi, je suis issue du monde hospitalier et souvent, l'exemple que je donne, c'est de se dire, par exemple, le directeur du GHT d'un groupement hospitalier de 8 ou 9 grosses structures, il représente une fonction, en fait. Il ne représente pas une personne. Et vice-versa, pour cette personne-là, on représente une fonction. Donc, en fait, il y a un lien. On attend quelque chose de nous. Mais en contrepartie, il n'y aura pas forcément quelque chose qui sera apporté, en fait. Et j'amènerai juste une toute petite nuance par rapport à ce qui a été dit précédemment, c'est que même des membres de la famille ne sont pas forcément dans le premier cercle, en fait. Et c'est des fois la problématique, c'est qu'il y a des personnes de la famille qui peuvent être dans le troisième, voire qui peuvent être à l'extérieur, quand même aussi, dans des relations qui sont justement problématiques.
Et qui vous sollicitent beaucoup. Comment dire non, de façon un peu schématique, voilà, quand on sent qu'on sature, relationnellement parlant, comment dire non ? Quel est le principe ?
Le principe, ce qu'on invite les gens à faire comme exercice dans le livre et dans les vidéos, c'est déjà de bien comprendre ce que sont ces cercles relationnels et la distance relationnelle pour mettre les gens à leur bonne place. Comme l'a très très justement précisé Alicia, c'est pas généalogique. C'est en fonction de plusieurs critères. De percevoir la distance relationnelle et de percevoir quel est notre niveau d'énergie. Nous, on ne va pas dire aux gens qu'il faudrait être égoïste ou qu'il faudrait ne plus donner. Si c'est dans votre nature de donner aux autres, mais allez-y, donnez, mais regardez à qui et quel est votre niveau d'énergie. Si j'ai 100 000 euros dans les poches en billets de 50 euros et que je veux donner 50 euros à tous les sans-domicile que je croise parce qu'ils me touchent et que ça m'affecte, c'est OK. Mais s'il me reste 10 euros pour finir le mois, est-ce que je vais les prioriser d'une manière ou d'une autre manière, ou je vais me laisser embarquer par ce surplus d'empathie, en fait ?
Question de Marie-Laure Sunshine.
Oui, pour rester sur ce problème de la culpabilité, c'est non, pas tout de suite. Et celui-là, il est majeur. Et il y a un exemple que vous donnez très imagé, je trouve, dans votre livre, c'est le déménagement de la bibliothèque.
Ouais.
Voilà, ça c'est formidable. C'est aider quelqu'un à vider sa bibliothèque pour remettre les livres un peu ailleurs. Vous tendez les mains, il vous en met deux, il vous en met trois, il vous en met dix. À quel moment vous allez lui dire « mes bras ne tiennent plus, je vais y aller, je vais t'aider, mais petit à petit et à mon rythme ».
Oui, alors tout à fait. C'est un exercice. Je rends à César ce qui lui appartient. C'est Alicia qui a cette idée, mais on l'a allègrement repris. On en parle en formation. On conseille aux gens de l'expliquer de cette manière-là. Vous déménagez. Vous avez une bibliothèque pleine, une vide. Et puis je vous demande de m'aider. Je vais vous mettre des livres dans les mains. Puis encore plus, comme vous êtes sympa, vous allez dire OK. Et puis vous allez rien dire, en fait. Et puis moi, je sais pas si vous êtes sportif ou pas. Et au bout d'un moment, vous en pouvez plus et vous lâchez tout. Et vous vous culpabilisez. Et puis peut-être moi, je vais être un petit peu fâché. Je vais vous dire mais mes bouquins, quand même, vous les avez abîmés. Vous auriez quand même pu me dire. Alors que ce que vous auriez pu dire, c'est pas forcément non, en fait. C'est juste pas tout de suite. Attendez deux minutes, je vais déjà déposer ce que j'ai dans les mains, et puis je reviens en chercher. Et peut-être ça m'aurait contrarié. Peut-être j'aurais dit, vous exagérez, vous auriez pu en prendre un ou deux de plus. Mais quand même, ça se serait passé. Et donc oui, peut-être parfois dire un peu plus tard, peut-être évaluer combien on a déjà de livres dans les mains. Il y a des gens, ils sont très doués pour tenir les livres des autres dans leurs mains. Et donc, combien j'ai de livres dans les mains ? Et celui-là, là, combien il veut m'en rajouter ? Il me rajoute un article qui fait deux pages ou il est en train de me rajouter une encyclopédie en quatre volumes ?
11h moins le quart, l'heure de retrouver la petite mythologie des objets d'Éric Libiot.
Ne dit-on pas des objets inanimés ?
Grand bien vous fasse.
Et la question s'est posée à mon esprit fulgurant.
Ali Rebéi.
Objets inanimés, avez-vous donc une âme ?
Sur France Inter.
Éric Libiot.
C'est un objet qui se trouve dans cette boîte posée sur le meuble de l'entrée et dans laquelle on jette tout et qui finit par déborder sans qu'on ait envie de la vider. Pourtant, il le faudrait, on se le jure, à chaque fois que l'on y fouille pour chercher les clés de la cave, un peu de monnaie qui traîne à côté du paquet de mouchoirs entamés, d'un badge au fermoir ouvert, si je puis dire, et dont l'aiguille pique le doigt, c'est énervant, d'un masque FPP2 ou FPP3. Je n'en sais rien, de toute manière, ce masque ne sert plus, il est vieux, usé, mais il est toujours là, on ne sait jamais, on n'espère jamais, et ce masque côtoie, lui, une clé USB. Un minuteur, une montre qui indique la bonne heure deux fois par jour parce qu'elle est arrêtée, une mini lampe de Porsche et tout se fadera sans pile comme dans cette longue phrase que je viens de prononcer. Et parmi ce bazar en désordre qui ressemble à un cerveau surchargé, il y a un objet qui s'empile parmi les autres, c'est la pile. Une petite pile alcaline, 1,5 volts AA ou AAA, bon c'est moins bien que l'andouillette, mais c'est la taille familiale la plus courante. Cette pile a la forme d'un pilier en taille réduite, par exemple le pilier d'un pont, d'où son nom donné par Alessandro Volta, physicien et chimiste, qui a inventé la pile et lui a donné ce nom car l'objet est fait de plaques de métal posées les unes sur les autres comme le pilier entasse les différents matériaux. Entasser ou piler, les verbes sont proches, mais à l'époque de Volta, en 1800, le verbe n'existait pas encore puisqu'il a d'abord fallu inventer la pile. Alors je vous vois venir, Ali, vous allez me dire que la pile n'est pas un objet tel qu'on l'entend. Et je peux bien l'entendre, effectivement, mais je vous pose la question, si la pile n'est pas un objet, qu'est-ce qu'elle fout dans cette boîte posée sur le meuble dans l'entrée, hein ? Voilà la réponse. D'autant que la pile est l'objet de toutes les convoitises, car elle donne vie à de nombreux objets. La radio, par exemple, l'alarme, l'horloge murale, la télécommande ou la mini-lampe torche. ce qui n'est pas rien, vous en conviendrez. Alors il faut la choyer et la câliner, cette pile alcaline, d'autant qu'avec le temps, bah, tout s'en va et que la pile de la boîte de l'entrée va peut-être disparaître, remplacée par une pile solaire, une pile nucléaire, comme dans Iron Man ou tout autre matériau qui ne sera pas du lithium. Alors aujourd'hui, j'aurais bien sûr aimé que cette chronique tombe pile au moment de vous annoncer une invention révolutionnaire, mais non, ça va prendre encore un peu de temps, ce qui va me permettre de garder la pile encore un moment dans la boîte de l'entrée, comme tous ces objets qui ne servent à rien. D'ailleurs, on s'en moque hein, de ces objets, Gad Elmaleh l'a fait dans un sketch, mais moi je les aime bien, ces objets abandonnés dans la boîte de l'entrée. À leur manière, ils racontent l'époque, mais surtout ils racontent le passé de chacun, qui s'habille parfois d'un peu de nostalgie et de plaisir plus ou moins révolu. C'est aussi pour cette raison qu'ils sont tous dans cette boîte de l'entrée. Ils servent et ils sont finalement séduisants. Et vous savez quoi, Ali, certains ont même du sex appeal.
Et mon cher Éric Libieux, je vous conseille d'écouter l'émission de jeudi dernier consacrée au grand ménage de printemps.
Mais je l'ai écouté, c'est pour ça que j'ai cité Gad Elmaleh.
Où justement, on vous donne des conseils pour vider cette fameuse boîte foutoir que nous avons tous à la maison. Une petite réaction, docteur Philippe Haïm.
La pile, non, oui. Ça m'évoque forcément, ça tombe à pic, c'est vraiment ça. Et puis la boîte foutoir de l'entrée, évidemment, si notre mémoire de travail ressemble à ça, je vous laisse imaginer la manière dont on va se sentir.
Tous les épisodes de la petite mythologie des objets d'Éric Libieux sont à retrouver sur l'appli Radio France.
France Inter.
Je crois même qu'il y a une belle journée qui se prépare.
Ali Rebéi.
Ah bon ? Eh bien, grand bien lui fasse.
Sur France Inter.
Et ce matin, comment désaturer, comment diminuer sa pression mentale avec le docteur Philippe Haïm et avec la psychologue Alicia Sandon qui publie Je désature. Et nous accueillons Marc. Bonjour Marc.
Oui, bonjour.
Bienvenue dans cette émission. Alors comment faites-vous pour désaturer, pour faire diminuer votre pression mentale ?
Alors, dans mon cas, moi, je cumule les profils pour s'assurer une bonne surcharge mentale. Je suis chef d'entreprise, papa solo et impliqué dans de nombreuses associations. Et la solution que j'ai trouvée, c'est d'agir sur la temporalité. Mmh. C'est-à-dire que j'ai un planning sur la semaine. Donc, par exemple, pour le milieu associatif, c'est le lundi, j'ai un créneau horaire. Pour la paperasse de la maison, c'est le mercredi. Le mardi matin, c'est pour moi. Mmh. Et ainsi, j'ai aussi une consultation active de toutes les infos. C'est-à-dire je ne subis pas le smartphone, l'ordinateur. Je n'ai pas d'alerte. Et c'est, par exemple, je prends l'exemple du milieu associatif, le lundi, je consulte et je traite, et puis c'est fini. Mmh. On passe à autre chose, et ce sera la suite pour la semaine prochaine. Comme ça, je suis pas tout le temps sollicité, parce que je suis pas médecin urgentiste, finalement. Il n'y a pas de vie en jeu. Et puis, j'ai décidé de savoir abandonner. Et j'ai trois réponses. Type, c'est pas le temps, pas capable, pas envie. Et ça, c'est des soupapes, parfois, pour se sortir d'engagements qui sont parfois pas si importants que ça. Voilà, donc ma méthode. Et du coup, j'ai pas cette instantanéité à gérer en flux permanent des WhatsApp, des mails, etc. Donc, je traite.
Votre regard, docteur Philippe Haïm.
Je pense que, enfin, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est d'évacuer un certain nombre de sources de stress chronique pour se maintenir éveillé. Alors, il parlait du médecin urgentiste, c'est vrai qu'en caricaturant, on pense à ça, mais c'est-à-dire qu'on est, pour avoir vécu des gardes à l'hôpital, si une urgence vitale arrive à 1h du matin ou à 3h du matin, on a beau être fatigué, on retrouve de l'énergie, parce que le stress nous maintient éveillés. Là, le fait de faire ça, c'est de se dire, j'enlève la source qui me maintient éveillé de façon inutile. Et faire un planning est une bonne idée, mais encore une fois, je trouve encore plus intéressant si on arrive à faire un planning qui inclut des petits moments de pause.
Des vraies pauses. Merci beaucoup, Marc, de nous avoir appelés. Pour terminer, Alicia Sandon, j'aimerais que vous nous aidiez à faire face à la saturation sociale, à tous ces « je dois »,« il faut », »,« on devrait », qui nous accaparent et qui peuvent nous prendre la tête. Comment on fait ?
Alors, comment on fait ? Vaste question. Parce que c'est par là, en fait, que commence le travail, on va dire, de SAP et qui nous fait dégringoler jusqu'à cette saturation cognitive, en fait. Donc, c'est vraiment important de pouvoir travailler là-dessus. C'est se réapproprier, en fait, ces injonctions. Alors, non pas les rejeter en bloc. On reste dans notre ligne de conduite qui est la nuance, en fait. C'est questionner, c'est « je dois », c'est « il faut », pour réussir tout doucement à pouvoir de temps en temps dire « je veux », »,« j'ai envie », »,« j'ai besoin ». En fait, faire des choses qui nous correspondent, qui ont du sens pour nous. Et donc, pour ça, c'est de pouvoir mettre à jour ces injonctions, déjà qu'elles viennent de la famille, de la société, de la culture, des réseaux sociaux, en fait, et se positionner par rapport à ce qu'elles nous disent, ces injonctions. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour être... Alors, moi, je vais prendre dans mon cas, parce que je suis une femme et une maman, mais voilà, une femme épanouie ou la meilleure maman possible, en fait. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Et est-ce que je suis d'accord avec tous ces critères ou est-ce qu'il y en a... sur lesquels, finalement, j'ai pas forcément envie de cocher cette case parce que, de toute façon, il n'y a pas de garantie de récompense au bout du chemin, en fait, quoi. Donc, c'est de pouvoir questionner, externaliser, on utilise ce terme-là au niveau du livre et de la formation, externaliser ces injonctions pour les regarder et prendre position par rapport à ce qu'elles nous demandent, en fait.
Et encore une fois, c'est une position nuancée. C'est pas ni les adopter, ni les rejeter. C'est parfois les adopter, parfois les rejeter, et puis parfois les accepter pour d'autres raisons. Je vais quand même le faire, mais pour une autre raison que celle qu'on attend de moi. Et c'est assez soulageant d'avoir cette position nuancée parce qu'on n'a plus envie de se conformer, mais ce n'est pas toujours possible de se rebeller.
Un mot de conclusion, Philippe Haïm. Comment diminuer sa pression mentale? Comment désaturer? Quel est le principe fondamental s'il y avait un message à retenir ce matin?
Ah, je vais prêcher pour ma paroisse, mais vous le verrez dans les contenus si vous allez voir ce que je fais. On a fait un site internet qui s'appelle jesature.com. J'en profite parce que on a mis pas mal d'informations là-dessus. Et l'idée, c'est d'être un peu méthodique. Voilà, je pense qu'il faut y aller doucement. Les gens sont parfois surpris, aussi bien dans la formation en ligne que dans le livre. On dit aux gens, lisez un chapitre et vraiment faites les exercices. Faites-les pendant 15 jours et ensuite seulement lisez le chapitre suivant. Je crois qu'il faut y aller doucement. On commence par le cognitif parce que c'est ce qui nous prend le plus la tête. Mais il ne faut pas oublier les autres strates. Il ne faut pas être comme quelqu'un qui vide l'eau d'un bateau dans lequel il y a un trou. Il faut continuer petit à petit et reconstruire les choses. Et puis vraiment, nous, notre idée, c'est d'autonomiser les gens, de leur donner, non pas un livre qui va leur donner la clé, mais un livre qui va leur apprendre à faire quelque chose. Et on espère, à la fin, être même inutile pour les gens et qu'ils aient pris les principes pour eux. Donc, vraiment, de prendre le temps de faire les exercices méthodiquement, pas juste de binger, on va dire, le livre ou les vidéos, et vraiment d'y aller progressivement. Et on finit par y arriver, on finit par désaturer, même dans ce monde surstimulé. C'est vraiment possible. C'est pas une garantie, mais c'est vraiment possible.
Merci beaucoup, docteur Philippe Haïm et Alicia Sandon. Je désature, c'est publié chez Marabout.